Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue toujours sans public au théâtre de l'Alliance française pour Un masque et la plume, le troisième consacré à la rentrée littéraire de janvier avec ma chère Patricia Martin, des petits matins du week-end de France Inter, Frédéric Becbédé du Figaro Magazine, Arnaud Vivian de Transfuge et de Regard et d'un revenant que je suis ravi d'accueillir, Jean-Louis Aisine. Après avoir représenté à cette tribune plusieurs organes de presse, dont le Nouvel Observateur et le magazine littéraire, il vient enfin de retrouver une chronique dans une revue dont j'ignorais la veine littéraire, qui est le Chasse-Marée. Je sais que Frédéric y est abonné, où il est question ce mois-ci de goélette, de kayak, de pirogue, d'anguille, de pêche à la ligne, la passion d'Arnaud, et de la loi littorale que connaît très bien Patricia, ah oui, et où Jean-Louis consacre sa première chronique à l'écrivain François Sureau. Je vais revenir vers toi tout à l'heure, à la fin du courrier, Jean-Louis. On parle ce soir de Maria Cazares avec Anne Plantagenet, de Marina Abramovitch avec Eric Fotorino, du roman Fleuve de Céline Curiol, plus de 800 pages, de La vie en relief de Philippe Delerme et du Colibri de Sandro Veronesi, dans le courrier de la semaine. Donc, à propos de Serge, de Yasmina Reza, Yannick Pasquet signale à Frédéric que Oswiecim et Auschwitz, c'est la même chose. Le nom est dans le premier cas polonais et le second allemand, puisque tu en doutais un peu à la dernière émission, mais c'est bien le même lieu. Et puisqu'il y est allé, ce que tu racontais, il devrait savoir que ce n'est pas un village, mais une ville de 40 000 habitants. Patrick Lefebvre de Paris me sait gré d'avoir conseillé les nœuds de vie de Julien Gracq, mais il ajoute que tous les textes ne sont pas inédits. En effet, l'extrait où Gracq, vous savez, se compare à une survivance folklorique comme le pain poilane, avait paru en 2000 dans un magnifique article du Monde intitulé « En littérature, je n'ai plus de confrères ». Le feuilleton, mes enfants, continue à propos de l'anthésite évoqué par Serge Joncourt dans son roman et ici par Jean-Claude Raspien-Jas. Cette fois, c'est Luc Stiévenard de Pau qui m'envoie des photos prises dans une grande surface. Comme vous pouvez le constater, m'écrit-il, l'anthésite n'est pas la boisson archaïque telle que l'a décrite un critique. Au contraire, elle se vend toujours, d'autant qu'elle s'assortit tout à fait avec les machines à boissons pétillantes qui se répandent sur le marché. Enfin, donc, Frédéric Chapon de Bruxelles se souciait jusqu'à aujourd'hui de savoir où était passé Jean-Louis Aisine. Et là, je le cite, Frédéric Chapon, l'homme de Pontecombo et du Pays d'Auge qui classait les romans selon qu'ils sont à tendance acropète ou basipète, qui distinguait les meuglements des vaches normandes et allemandes et qui, à propos du dictionnaire amoureux de la Bretagne de Yann Kefelec, se contentait d'un lymphatique « Le homard m'a tué ». Cher Jérôme Garcin, pouvez-vous lui transmettre un salut fraternel et lui dire combien il nous manque ? Jean-Louis, tu manques, tu vois, même à Bruxelles, simplement à Paris, et à la France entière. Content de revenir ici avec, si j'ose dire, avec le Chasse-Marée ?
Oui, tout à fait, oui, ce qui est d'ailleurs un peu inattendu. Mais tu sais que dans le pays d'Auge, de manière native, on a tous le pied marin, c'est obligé, un peu obligé.
En deux mots, c'est une revue bimestrielle ou bimestrielle ?
Bimestrielle.
Bimestrielle.
Donc elle paraît tous les deux mois.
Merci de la traduction. Et tu vas évoquer des livres qui ont tous trait à l'eau, si j'ose dire.
Pas forcément, c'est un courant aquatique. Frédéric connaît bien ça, c'est le rapport à la mer, à l'océan, à l'univers maritime, qui est en réalité une constante de la littérature française. C'est une sorte de non-dit, plus ou moins, pas toujours un non-dit, mais c'est toujours présent. Et puis, la mer, c'est que je me souviens, puisqu'on parle du Pays d'Auge, tu te souviens peut-être que nous avons eu un maire à Lisieux qui s'appelait Henri Chéron, qui a été nommé un jour ministre de la Marine, sans avoir jamais monté sur un bateau, ce qui avait fait rire toute la presse à l'époque. Il avait convoqué tous les journalistes à Trouville. À l'époque, il y avait un bac qui franchissait la Touque, 30 mètres de large. Il a fait la traversée et il a dit « Désormais, messieurs, je me sens le pied marin.
Bon. » Je te signale aussi parce qu'on va quand même parler de livres, et pas simplement de marée. Je te signale quand même, mon cher Jean-Louis, que très longtemps avant Le Masque et la Plume, ça a d'ailleurs ajouté un peu à sa légende, il y avait la fameuse météo marine.
Mais oui.
Qui a beaucoup joué en faveur aussi de la poésie, parce que c'était un vrai bonheur. Allez. On commence avec Marina A. d'Éric Fotorino chez Gallimard. C'est la rencontre à Florence. En 2018, entre le docteur Paul Gachet, allusion évidemment au médecin et collectionneur d'art appelé au chevet de Van Gogh après son suicide à Auvers, et la célèbre artiste et performeuse serbe Marina Abramović, alors qu'il voulait montrer à sa femme et à sa fille des tableaux de Botticelli, le chirurgien orthopédiste, donc Paul Gachet, est saisi au Palazzo Strozzi par les photos et les vidéos de cette égérie du body art, de l'art corporel, qui est allé jusqu'à se sacrifier, se flageller, se brûler l'index avec une bougie et se congeler dans des blocs de glace. 2 ans plus tard, en pleine pandémie, Gachet tombe par hasard sur une photo de Marina Abramović et de son compagnon d'alors, Ulay, prise à Bangkok en 83, qui montre 2 êtres qui ne peuvent pas se toucher et qui doivent rester à distance l'un de l'autre, mais sans masque. Hein. Pour le médecin, c'est clair, Marina est une lanceuse d'alerte. Je vous rappelle que ça se passe en 2018. Patricia ?
J'ai trouvé que c'était un livre fascinant, assez inattendu de la part de Fotorino, parce qu'on le connaît évidemment dans des récits, pour des récits beaucoup plus
il y a pas de vélo.
Autobiographiques. Non, à un moment donné, il y a un Moshé. Alors Moshé, on sait que c'est le nom de son père marocain. Mais non, c'est une fiction, mais qui a peut-être à voir aussi avec lui. C'est un roman très... Il y a une irruption comme ça, de l'art à la fois, et de l'autre, parce qu'on peut presque dire qu'il y a presque 2 parties en fait dans le livre. C'est très visuel, quelquefois à la limite du supportable, je dois dire. Peu à peu,
les performances de Marina peuvent être supporter. Hein.
Ah bah, et comment ? Et peu à peu seulement, un peu comme lui, d'ailleurs, on comprend de quoi il s'agit, on comprend la mise en perspective et les raisons pour lesquelles c'est fait. Et ça arrive comme ça, comme une fulgurance, à cet homme qui est, je parle de Gachet, qui est chirurgien, qui est quelqu'un de méticuleux, de rationnel, d'assez égoïste finalement aussi dans sa vie. Et qui est fasciné par cette confiance qu'il y a en l'autre, parce que ce couple qui travaille ensemble, s'il n'y a pas la confiance comme socle entre deux, je veux dire, à un moment donné, surtout lui, s'il lâche, elle est morte. Confiance dans le public aussi, parce que le public a quelquefois à sa disposition des plumes, mais aussi des pistolets. Enfin bon, ça va vraiment jusqu'à la mort. Et la deuxième partie, à partir du moment où il parle de Lévinas et de « Après vous », moi, ça m'a fascinée parce que Lévinas, pour moi, c'est un... Enfin, je suis amoureuse de cet homme, de ce qu'il a écrit.
Il est rare qu'il y ait du Lévinas dans les romans contemporains.
Exactement, mais le « Après vous », c'est vrai que c'est une philosophie de vie absolument extraordinaire.
Frédéric.
Je suis d'accord sur un point avec Patricia. C'est au début, on se demande qu'est-ce qui lui prend de s'intéresser à Marina Abramović, et on sent que c'est le cas de l'auteur comme du personnage. Il se pose d'ailleurs la question tout au long du livre, pourquoi je suis fasciné par elle, et nous aussi. Et ça démarre pas trop mal grâce à ça, puisqu'il y a finalement, en fait, c'est un peu comme Tintin en Toscane. Il y a Fotorino et le docteur Gachet, qui, je rappelle, est le nom d'un collectionneur qui a été peint par Van Gogh.
Je viens de le dire, hein, c'est pas la peine de répéter. Hein.
Ah bon, pardon, tu l'avais déjà dit.
C'est pas ce qu'il dit, en fait.
Si tu m'écoutais...
Donc ça... Tout ça se fait qu'on marche pendant les 50 premières pages parce qu'on se dit mais où est-ce que ça va ce truc et puis bon si on connaît pas très bien Marina Abramović et ses performances bizarres il y a une curiosité quoi. Ensuite là ça devient assez vite ridicule. Je pense par exemple au moment où il est tellement choqué par les performances qu'il manque de vomir son chocolat chaud. Et puis,
il faut dire qu'il mange beaucoup, hein, ça nous.
Mais il mange de moins en moins, puisqu'après, après une autre performance, il ne finit pas son poisson du jour, qui est un lieu. Je dis ça pour Jean-Louis.
Ah oui.
Il y a une autre chose qui fait beaucoup, qui est interdite. Je l'ai déjà dit souvent, mais c'est raconter ses cauchemars. Ça, il le fait régulièrement dans le livre, et ça, je pense qu'il faudrait une loi pour que les écrivains ne puissent plus raconter leurs rêves dans leur roman. Et puis bon, voilà, ça se perd un peu et il essaye de se récupérer sur la fin, sans raconter la fin. C'est vrai avec cette histoire de geste barrière où on sent que tiens, il a écrit ce livre probablement en partie durant les confinements successifs et que il essaye de
oui, c'est comme ça qu'il en fait
retomber sur ses pattes avec cette histoire de distanciation entre Marina et son fiancé. Enfin bref, j'ai pas été très convaincu par
Arnaud.
Ce livre.
Oui.
Donc, je rappelle que Pierre Gachet, c'est le nom d'un collectionneur.
Non, mais arrêtez maintenant.
Et donc là, on voit bien, il y a une intention. Non, mais c'est important. C'est, on voit bien l'intention de Fotorino. Il y a toujours, dans les livres de Fotorino, un côté prudhomesque qui, là, est encore assez présent. C'est l'histoire d'un bourgeois qui découvre, semble découvrir l'art contemporain. Et donc, il tombe un peu dénu. Mais en même temps, il y a une perspective, c'est qu'il tombe amoureux de Marina. Il est là avec sa femme et sa fille, qui d'ailleurs sont en train déjà d'établir une première distance. Hein, sa fille...
Bon, bah moi, si j'étais sa femme, je serais rentrée à Paris, hein, très
honnêtement. Porte un casque audio. Et donc, il y a quelque chose là qui commence à se créer. Alors, c'est effectivement le rapport à l'autre, très fort, hein, effectivement, le couple avec cette scène, enfin, cette pièce de Marina et de son compagnon lorsqu'ils vont partir l'un et l'autre d'un bout de l'autre de la muraille de Chine. Ils sont supposés se retrouver, marcher pendant des centaines et voire des milliers de kilomètres. Et lorsqu'ils arrivent effectivement à se retrouver, finalement, ils se rendent compte qu'ils ne sont plus amoureux l'un de l'autre. Et puis, il y a une deuxième partie, effectivement, et c'est la première fois, finalement, qu'un écrivain parle du coronavirus.
Oui, c'est pas la dernière, à mon avis.
Non, mais c'est le premier à tirer, donc voilà. Et donc, il y a une description de nos vies sous le régime du corona, donc à l'époque du premier confinement, au mois d'avril dernier. Et donc là, ça devient très bizarre. Il y a une histoire avec un gâteau, le généreux, qui lui est envoyé par le Secours catholique, qu'il essaye de donner.
Offrir un généreux, puis que finalement, personne n'en veut. Et le généreux se retrouve à la poubelle, quoi.
Oui, c'est très étrange. C'est très étrange, je ne comprends absolument pas ce que ça veut dire. Oui. Quelle est la symbolique, la parabole. Et puis à un moment, il a des symptômes, il n'arrive plus à regarder autrement que droit devant lui. C'est vraiment étrange, ça devient un peu kafkaïen. Il a des stigmates, c'est-à-dire qu'il saigne sans avoir de plaies. Enfin, tout ça devient extrêmement étrange, extrêmement bizarre. On ne peut pas dire qu'on n'y comprenne grand-chose.
Qu'est-ce qu'on pense de Marina A au chasse-marée?
Alors, on a dit d'abord qui était le docteur Gachet. C'est important.
Je vais arrêter de résumer
les livres, moi. Je vais te dire. Si c'était du vélo, il y a souvent eu du vélo entre Fotorino et moi. Ouais. Là, je dirais qu'il m'a sorti de la roue, quoi. Je suis largué. Voilà. Je me suis même demandé ce qu'il avait pris. Parce que être largué dans un col, je veux bien, mais dans une côte de quatrième catégorie, je ne comprenais pas. De la part quand même d'un journaliste éminent, directeur de journaux, qui a dirigé Le Monde, qui est un parangon de vertu certainement, et de rationalité, ça ne fait aucun doute.
Et qui fait de très bons journaux, dont le 1, je le rappelle,
ouais.
Mais aussi avec François Bunel, la revue américaine.
Mais je me suis demandé s'il n'était pas parti du Monde avec un carré de moquette qu'il aurait fini par fumer, finalement.
Mais la première partie est très journalistique, hein. C'est vraiment reportage.
Oui.
Et c'est dommage que ça soit un article dans le 1, par exemple.
Je suis rassuré par le fait qu'Arnaud n'ait pas compris grand-chose, parce que moi, je n'ai rien compris.
Ah bon?
En gros, oui. Je me suis dit, mais
est-ce que tu connaissais cet artiste performeur?
Pas du tout.
Ah, pas du tout.
Ah, j'avais jamais entendu parler.
Il n'y a pas eu de prestation à Ponto Combo de Marina Abramovic?
Non, je ne crois pas. Pas à ma connaissance, en tout cas. Voilà. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mysticisme de pacotille? Fotorino m'a fait penser à la servante Félicité, carrément. Vous savez, ce personnage de Flaubert...
Ça commence à Pont l'évêque.
Ne sachant plus sur qui ni sur quoi exercer sa dévotion, finit par découvrir le Saint-Esprit dans l'œil de verre d'un perroquet empaillé. Je me suis dit, c'est quelque chose de cet ordre-là qu'a vécu Fotorino.
De pacotille, je te trouve quand même assez vachard. Parce que
disons verroterie, alors, si tu
préfères. C'est quoi? C'est parce qu'il y a des bons sentiments à la fin, finalement. C'est aussi un livre sur l'aveuglement de notre époque, le fait qu'on ne voit pas l'autre.
Bon, allez, c'est Marina.
C'est comme ça que je l'ai compris.
D'Éric Fotorino.
Je vais leur lire.
Et c'est chez Gallimard. On ne quitte pas l'Italie ni Florence avec Le Colibri, roman de Sandro Veronesi, traduit de l'italien par Dominique Vitose chez Grasset, qui vient d'ailleurs de recevoir le prix du livre étranger France Inter, Le Point. Veronesi, je le rappelle, c'est l'auteur de Chaos Calme, prix Femina étranger 2008, porté à l'écran par Antonello Grimaldi avec Nanni Moretti. Et le colibri du titre, c'est Marco Carrera, surnommé ainsi par sa mère parce que des problèmes de croissance l'ont empêché de grandir à l'adolescence et qu'il a toute sa vie déployé une énergie folle pour rester, là je cite, pour rester immobile. Marco Carrera, 40 ans, ophtalmologue, réchappé d'un accident d'avion, marié à une hôtesse de l'air, slovène, père d'une fille, bref, heureux jusqu'au jour où il reçoit une étrange visite, celle du psychanalyste de son épouse. Et va ressurgir alors un drame qui s'est déroulé en 81 en Toscane, mais aussi une histoire d'amour qui s'est prolongée. Je ne vais pas tout raconter parce que de toutes les manières, vous m'écoutez pas. Qu'est-ce que tu en penses, Arnaud ?
J'ai détesté.
Oh !
Ouais, j'ai détesté. C'est pas simplement que j'ai pas aimé. Certains livres vous laissent indifférent, mais celui-là, je l'ai vraiment détesté
de
bout en bout. J'ai vraiment, dès la première page, ça m'a agacé, et ça n'a cessé de m'agacer tout au long.
Oh.
Vraiment, et puis ça montait. Je me disais, non, c'est pas possible. Un pareil faiseur, on dirait du Grégoire de la Cour. C'est pas brillant, c'est clinquant. Ça n'en raconte absolument rien dans un désordre effrayant.
Ah ben, il est venu.
Éparpillé façon puzzle, pour rien. Ça ne veut rien dire. Ça se termine par une espèce d'ode au messianisme nouveau avec un chapitre qui s'appelle L'homme nouveau. Quand on est italien, généralement, on hésite à faire ce genre de choses. C'est terrible. Il y a vraiment une, un mauvais esprit dans ce livre, quelque chose de fabriqué au sens le pire de ce que peut donner la littérature quand elle est fabriquée. Non, c'est un objet, à mon avis, j'en avais pas vu comme ça depuis longtemps. C'est-à-dire et vraiment, il y a des choses, je veux dire, des phrases quand même. Tous les hommes essayent de faire coïncider leur femme avec un symptôme pour écrire des âneries pareilles. Faut y aller, hein, quand même, hein.
Bon, je rappelle que c'est le prix du livre étranger France Inter, le point Jean-Louis.
J'ai pensé exactement comme Arnaud.
Qu'est-ce que vous avez ce soir?
Le côté fabriqué. Je me suis même dit, tiens, c'est le premier faux chef-d'œuvre. Parce que ça nous est vendu comme un chef-d'œuvre aussi en même temps.
Ouais. Ça nous est vendu comme un chef-d'œuvre.
Pourquoi? Parce qu'il y a une
virtuosité. Il a eu le prix Strega en Italie avant d'avoir le prix Inter.
Pour Cao Calme et pour celui-là.
Ouais.
Et c'est une star en Italie, il faut le savoir.
Ah, mais on s'en fout.
Pour les Italiens,
je crois même qu'il a eu deux fois le prix Strega.
Pour Cao Calme, tu n'écoutes pas ce que je dis. Je l'ai dit qu'il avait pour Cao Calme et le Colibri.
Non, mais
et il est considéré comme l'héritier de Moravia en Italie.
Eh ben, dis donc.
Franchement, non, mais c'est n'importe quoi. Ce côté fabriqué se voit. D'ailleurs, je me suis rendu compte, arrivé à la page 94, que le personnage principal, Marco Ferreira, j'en avais rien à cirer. C'est-à-dire, je ne m'étais pas attaché à lui en 94 pages. C'est quand même très étonnant de la part d'un bon lecteur.
C'était une bonne idée de faire revenir Jean-Louis, je crois.
Moi, j'ai noté fake masterpiece. The first fake masterpiece. Le premier faux chef-d'œuvre de la littérature mondiale. Parce que, il y a une virtuosité d'apparence dans l'écriture, parce qu'il y a un éclatement. Ces lettres interminables qu'il écrit à un frère qui ne répond jamais.
Elles sont sublimes, ces lettres.
Elles
sont très belles, ces lettres écrites à son frère.
Ce frère qu'on ne voit jamais, c'est la métaphore du lecteur, quoi, qui reste silencieux et sans commentaire.
Bon, Patricia...
Sans voix. Quand il fait l'inventaire de ce qui a appartenu à leur père et qu'il lui demande s'il est d'accord de vendre telle et telle chose, il lui dit ce qu'il en a fait, comment il va faire, etc.
On n'en a rien à cirer.
On n'en a rien à cirer, si. C'est tout à fait intéressant. Et par ailleurs, moi, je trouve que la métaphore du colibri, elle est assez intéressante.
Alors, je trouve qu'elle ne fonctionne pas du tout.
Pourquoi ?
Parce que le colibri, c'est pas la métaphore de l'immobilité, c'est la métaphore du vol stationnaire.
Du vol stationnaire, c'est-à-dire que c'est quand même un oiseau très particulier.
Il est un peu pointilleux, hein.
Qui a beaucoup d'énergie, qui est très intelligent, parce que
son
cerveau pèse lourd par rapport au poids de son corps.
Il l'a dit, Jérôme, il dépense une énergie folle pour ce, avec
oui, mais il peut aussi aller très vite, le colibri. Il peut aller jusqu'à presque 100 à l'heure, le colibri, quand
c'est
il vole.
C'est pas le cas de Marco.
Et là, cette force, il la met, cette énergie, il la met dans le fait de rester immobile pour résister aux coups. C'est aussi, ça peut être aussi la métaphore, pourquoi pas, de la résistance bourgeoise, de cet homme qui ne veut pas qu'on lui...
C'est aussi un peu la métaphore des critiques qui s'agitent énormément pour ne pas
pour
bouger,
rien dire.
Pour ne rien dire.
Ah non, moi je trouve qu'en plus, ce qui raconte l'histoire, elle est évidemment dramatique, mais je trouve qu'il nous emmène, il nous permet de la recevoir, parce qu'on se la prend quand même dans la gueule en pleine gueule à chaque fois, quand il y a, c'est pas très drôle ce qu'il raconte, mais il nous permet d'y être justement préparé, peut-être par ces épisodes, par cette écriture, ce récit fractionné, et moi qui je trouve fonctionne très très bien. Et quand vous parlez de l'homme italien, machin, etc., moi je trouve que son portrait justement des femmes sont des femmes modernes, sont des femmes libres, des femmes indépendantes. Moi je les trouve très belles, ces nanas dans son bouquin.
Frédéric,
je suis d'accord avec Arnaud et Jean-Louis. Pardon, Patricia.
Je trouve que le livre, toujours toute seule sur mon île.
Non, je suis avec toi, Patricia.
Ce livre est même angoissant parce que vers la fin, il a un message terrible contre la liberté. Oui. Il y a tout un monologue, un passage contre les libertés, comme s'il fallait choisir entre vérité et liberté, qui est assez effrayant. Oui. Par ailleurs, je reprendrai l'argument de Nelly Caprielian quand elle disait qu'il y avait des romans séries télé, qu'il y a des romans qu'elle
reprochait à l'anomalie du prix Goncourt de Hervé Letellier.
Je pense qu'elle se trompait sur Hervé Letellier, mais qu'elle avait raison sur Le Colibri, avec sa galerie de personnages, le père fan de modèles réduits, la mère architecte,
Le couple des parents, moi je le trouve superbe.
Je trouve que tout a l'air, on dirait une arche de personnages pour une série télé, et ils n'ont pas d'épaisseur, ils ne nous touchent pas. Et en plus, alors point commun avec le télé, il y a aussi une catastrophe aérienne qui n'a pas lieu.
Bien sûr.
On dirait presque que dans deux pays différents, il y a eu des romans un petit peu similaires.
Bon. Voilà. Voilà ce qui reste du Colibri de Sandro Veronesi. Et c'est chez Grasset. Et à mon avis, on n'est pas au bout de l'émission, Patricia. L'unique Maria Cazares chez Stock. Un portrait de l'actrice par Anne Plantagenet, la romancière de Nation Pigalle et la biographe de Marilyn Monroe. Un livre qui paraît 3 ans après la publication de la volumineuse de la magnifique. J'ai même envie d'ajouter de la bouleversante correspondance aujourd'hui disponible en folio entre Maria Cazares et Albert Camus depuis leur première rencontre en 1944 jusqu'à la mort de l'écrivain en 1960. Je rappelle qu'elle est traductrice de l'espagnol, Anne Plantagenet, et donc elle est évidemment sensible au parcours de Maria Victoria Cazares Pérez, née en Galice en 1922, fille du dernier premier ministre espagnol qui a dû démissionner en 36 après le coup d'état du général Franco. L'Espagne dont Cazares conservera la nationalité jusqu'au bout, mais où elle ne retournera qu'après la mort de Franco en 75, soit 20 ans avant sa propre disparition en 96. Un livre qui est plein de retours en arrière, de flashback comme on dit au cinéma. C'est une biographie qui commence avec l'accident qui coûta la vie à Camus et qui se termine dans l'ultime demeure de l'actrice, Lavergne, qui se trouve en Charente. C'est vrai que moi j'ai eu du mal à lire ce livre, tellement j'étais encore habité par cette correspondance de Camus et de Cazares. Frédéric Camus.
Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il vaut mieux lire la correspondance entre Camus et Cazares que ce livre. Même si on apprend des choses quand même. Moi, par exemple, il y a cette histoire qui m'a frappé, quoi, le fait qu'à 14 ans, elle couche avec son beau-père. Et c'est bizarre que l'auteur ne s'attarde pas un peu plus là-dessus, parce qu'en ce moment, avec cette affaire Duhamel, livre de Camille Kouchner, tu te dis, pourquoi est-ce que c'est Maria Cazares...
qu'elle l'avait écrit avant quand même, et que son...
Oui, mais enfin, c'est quand même très, très, très... C'est extrêmement fondateur et très, très choquant. C'est un traumatisme terrible. Elles ont un couple à trois, à Paris. Maria a 14 ans, et elle couche avec le même homme, Enrique.
Mais simultanément, en plus, c'est pas...
Oui, et on ne sait pas où est le père, le premier ministre espagnol, là,
qui est en Angleterre.
Ah, d'accord. Bon. C'est sans doute ça, quelque chose de... Voilà, je trouve ça bizarre qu'on ne s'attarde pas un peu plus sur cet élément de la biographie. Le livre, je l'ai senti comme une accumulation à la Armand. Il y a des trucs d'un peu toutes les époques mélangés. Elle perd quand même les deux hommes de sa vie en 2 mois. Gérard Philippe, c'est fin 59.
Le 25 novembre 1959.
59.
Elle avait joué au théâtre, évidemment, non seulement les épiphanies de Pichette, mais aussi avait joué beaucoup au cinéma, notamment dans La Chartreuse de Parme, quelques années auparavant. Voilà.
Donc, ils n'ont pas fait que jouer ensemble. D'après ce qu'il dit dans ce livre.
Il y a même des allusions dans la correspondance entre eux, puisque Camus était jaloux de Gérard Philippe, qui jouait aussi d'ailleurs dans certaines pièces, dont le Caligula.
En lisant un certain livre de Jérôme Garcin, on peut peut-être aussi le deviner d'ailleurs.
Voilà.
Oui. Et donc, à 2 mois d'écart, en janvier 60, Albert Camus aussi. Et cette espèce d'empilement d'informations.
Il y a 3 hommes dans sa vie, en fait.
Oui.
Parce qu'il y a son père aussi qui a énormément d'importance.
Enfin, j'ai trouvé que, si vous voulez, comme c'est un livre sur le théâtre, c'est peut-être normal qu'il y ait beaucoup de répétitions, mais ça ressasse beaucoup. Voilà, c'est ça que j'ai eu comme impression. J'ai eu cette impression de ressassement.
À part l'épisode, sincèrement, avec Gérard Philippe, parce qu'en plus, on voit bien qu'il y avait une très bonne camaraderie, une véritable amitié entre eux. On ressent pas ça avec les autres hommes de sa vie. Moi, cette biographie n'a pas réussi à me la rendre, je dirais, sympathique, simplement. C'est une femme qui n'a pas de courage. Je parle pas de son talent de tragédienne, qui était certainement immense, mais c'est une femme sans courage,
dans
qui se
vie,
défile.
Dans oui. la vie, elle avait beaucoup de courage.
Elle a eu beaucoup de courage pour faire sa carrière, pour
non,
s'imposer.
Non, pas simplement dans ses actions, dans ses, enfin,
oui,
dans ses idées.
Mais bon, en même temps, face à certains événements privés, elle est très fuyante. Enfin, bref. Il y a aussi peut-être, je me suis demandé si cette biographie n'était pas fondée en quelque sorte sur un contresens, parce que l'auteur Anne Plantagenet, on l'a sait, spécialiste de l'Espagne.
Mmh. Et traductrice.
Et traductrice, oui, voilà, de l'espagnol.
Qu'il a pas ce qui fait qu'il y a à Marilyn Monroe, par exemple, aussi. Mmh.
Ce qui fait qu'il y a, un aspect éventail et mantille, si vous voulez, dans ce, dans ce récit, qui est un peu démenti par la carrière même et le parcours de Maria Cazares, qui toute sa vie a essayé de faire oublier son pays, oublier son accent qui était épouvantable au début, oublier toutes ses racines.
Enfin, un pays qu'elle détestait à cause de Franco.
Oui. Je suis tout à fait d'accord. Il y a aussi dans le récit un aspect un peu maniéré, avec tous ces chapitres qui commencent par la même phrase, elle, c'est, etc. Et qui souvent se termine aussi, quand un biographe est souvent amené à faire des hypothèses, et là, quand elle peut faire une hypothèse pendant 3 pages, et tout d'un coup conclure en disant, et peut-être pas. Ah bon? Alors qu'est-ce qu'on vient de lire? D'autre part, j'ai noté un certain nombre d'expressions aléatoires, mais vraiment, comme par exemple, celle-ci que vous trouverez page 64, et dans la même phrase où elle parle de la beauté rébarbative de Maria Cazares et même de la beauté rebutante. Alors, j'ai certainement pas, Patricia, exploré quant à moi tous les mystères de la gente féminine, mais je ne connaissais pas...
Oh, mais il reste
pas...
encore le temps,
j'aimerais
tu sais,
bien qu'on me dise
peux,
ce que c'est qu'une beauté rébarbative et qu'une beauté rebutante.
Bah, c'est une beauté hors... Alors, rebutante, ça c'est... Mais il y a quand même la beauté, ça veut dire
beauté
c'est peut-être hors des normes, peut-être.
Et puis, parmi les à peu près, alors là, il y a eu un autre homme dans la vie pour qui j'ai une véritable dévotion, moi, c'est Jean Servais, dans la vie de Maria Cazares. J'adore Jean Servais. Et elle qualifie sa voix d'une voix d'acier. Alors là, je ne vois pas du tout, c'est pas du tout une voix d'acier, j'en servais, moi je me souviens.
Peut-être qu'elle voulait dire voix cuivrée ou...
Ouais, c'est une voix de velours, une voix de laine, velours côtelé, mettons, mais pas une voix d'acier. Enfin, il y a des choses comme ça qui m'ont...
J'ai l'impression de ne pas avoir fait ce soir quand même un programme de bonne pioche, comme on dit.
Non, mais c'est vrai que c'est, on se demande si Maria Cazares avait besoin d'Anne Plantagenet pour la déchiffrer, quoi. Dans la mesure où effectivement, comme vous l'avez déjà dit tout à l'heure, il y a eu la correspondance, et puis il y a aussi une autobiographie de Cazares. En même temps, ce qu'elle montre au moins plutôt bien, c'est que c'est une femme blessée, c'est un volcan qui est absolument presque inapprochable, et que, comme toi, je suis d'accord, elle est peut-être pas m'ont énervée, mais il fallait peut-être être plus... Enfin, elle en rajoute un peu. Mmh. On a l'impression que c'est une couche au-dessus de l'autre, au-dessus de l'autre. Oui. Alors, moi, j'étais très touchée dans ce qu'elle dit, par exemple, de la solitude de Cazares. Oui. Cette solitude absolue, cette femme qui a la terre à ses pieds, ça tournait en Argent, enfin, en Amérique du Sud, en est la preuve, et puis évidemment aussi en France, qui à Avignon est applaudie comme je sais pas quoi, puis à un moment donné se retrouve, par exemple, dans un train, et qui pleure parce qu'elle pleure de solitude. Alors que par ailleurs, elle dit dans sa correspondance qu'à partir du moment où une fois on a été aimé dans sa vie, on n'est plus jamais seul. Et là, il y a évidemment le télescopage de... C'est contradictoire. Mais ça, je trouve que c'est plutôt pas mal fait. Mais le fait qu'elle ait comme ça, qu'il y ait des redites qui évidemment sont voulues, au bout d'un moment, on en a un peu marre. Mais bon, si on a lu la correspondance et l'autobiographie de Cazares, effectivement, oui. On n'a pas besoin de se lire. Si on connaît pas bien, pourquoi pas commencer par ça? Parce qu'il y a beaucoup de citations aussi de,
oui, Arnaud.
De la correspondance.
Oui, vous avez quand même une biographie de Maria Cazares qui commence par cette phrase. Elle, c'est Maria Cazares. Et vous dites quand même, on en est là. Ça interloque un peu. C'est quoi le stade d'après? C'est moi Tarzan, toi Jane. Jean-Louis a fait remarquer quelques soucis d'écriture. Oui. Mais là, quand même, on a quand même le sentiment qu'on touche un peu le fond du biopic aujourd'hui.
Bon, l'unique Maria Cazares chez Stock. De Anne Plantagenet, je ne sais plus quoi faire. En plus, vous n'écoutez pas mes résumés, mais en plus...
on n'écoute pas tes résumés,
méchant.
Qui sont ultra utiles à l'auditeur. C'est parce que nous, on a déjà
vous
le livre.
Vous vouliez donc, notamment Jean-Louis, un gros roman. Le voici, ce sont les lois de l'ascension de Céline Curiole. chez Actes Sud, un roman de 850 pages. Qu'est-ce qu'il y a?
Ils vont pas aimer parce qu'il y a Frédéric et Arnaud qui se regardent en faisant oulala comme ça avec la main.
De 850 pages dédiées à Paul Auster, dont elle a traduit certains livres et qui l'a encouragée il y a 15 ans, quand elle était ingénieure en sciences de l'environnement et correspondante Patricia à New York pour Radio France et la BBC, donc il a encouragé à persévérer dans la voie littéraire. L'histoire est découpée en 4 journées de 4 saisons de l'année 2015 à Paris, dans le quartier de Belleville. Personnages qui sont journalistes, psychanalystes, retraités, enseignants, chômeurs, lycéens, tous imprégnés du besoin de solidarité et qui vont s'y croiser. Céline Curiol explique qu'elle a été touchée par le printemps arabe de 2011, par l'idée de la révolution démocratique, et qu'elle s'est demandé si en France aussi il était possible de renverser l'ordre et le système établi. J'ai voulu incarner ça dans un roman, a-t-elle déclaré dans un journal. Je me tourne vers le révolutionnaire de la Tribune, qu'est Arnaud Vivian.
Mais oui, enfin un roman qui cite l'individualisme apolitique dénoncé par Alain Badiou, c'est pas si fréquent non plus.
Non, on a Lévinas chez Fotorino, voilà. Et on a Badiou chez Curiol.
Et là, effectivement, ça ne manque pas de dénonciation. Alors, on retrouve un petit peu, si vous voulez, c'est pas l'idée d'un roman monde, parce que ça se passe quand même essentiellement à Paris, même s'il y a un chapitre à Dubaï, mais malgré tout, on retrouve tous les thèmes d'actualité, c'est-à-dire l'islamisme radical, les migrants, Amazon, qui d'ailleurs ne s'appelle pas Amazon, qui s'appelle l'entrepôt, ce qui, à mon avis, est un manque de courage politique, là, pour le coup. Hein. Je me souviens qu'il y a 2 ans, Bégodeau a fait un roman qui s'appelait En guerre,
François où Bégodeau.
Une fille manutentionnaire chez Amazon dénonçait aussi ses conditions de travail. Eh bien, Bégodeau appelait Amazon Amazon, il appelait pas l'entrepôt. Alors, je sais bien qu'il y a des procès qui peuvent être menés, mais enfin là, si vous voulez, quand on veut faire un roman politique, il faut y aller. Il faut faire un roman politique. Après, l'autre problème, donc, c'est bien...
Tu peux pas nier qu'il soit politique, vraiment, ce roman.
Ah, il est totalement politique, et je dois avouer, plutôt de mon bord, par
ailleurs. Oui, c'est pour ça que je
suis, clairement.
Je suis d'abord
oui,
tourné vers toi.
Ça, je ne nie pas. Simplement, après, il y a quand même d'autres choses dans la littérature. Ah. On voit bien aujourd'hui que la littérature ne cherche plus à concurrencer l'état civil comme le voulait Balzac, elle cherche à concurrencer la série télévisée. Donc là, on a une organisation en saison, le terme n'est pas choisi par hasard. Ouais. Moi, j'ai tenu une saison et demie. Et après, j'ai dit c'est bon, je n'en peux plus. Pourquoi ? Il y a 6 personnages principaux. Dans la première saison, ils nous sont présentés les uns après les autres.
6 personnages en quête d'auteur.
Aucune intrigue à ce moment-là en commun.
Bah oui, mais c'est après que ça commence.
Oui, mais c'est après que ça commence.
À partir du moment où
première saison, on découvre tous les personnages les uns après les autres, qui sont quand même, excusez-moi, des stéréotypes tous. C'est-à-dire que l'analyste, alors là, bon, là, c'est vraiment... Il y en avait un, déjà, chez Verosini, là, qui était totalement nul.
Véronési.
Véronési, ouais. Il y a des psychanalystes partout maintenant, mais ils sont tous caricaturaux. Oui. Tout ça, et la fille journaliste, c'est pas que ça soit faux, ce qui est dit sur le journalisme, c'est qu'on est vraiment... J'avais l'impression de lire un hors-série du Monde Diplo, quoi. Au bout d'un moment, c'est pas ça, le roman. C'est pas ça, la littérature. Ça peut pas rester juste dans le dit.
Vous m'épuisez ce soir.
Il faut que ça soit un petit peu transcendé. Donc, moi, 350 pages, j'ai dit, ok, j'arrête. Oui. J'ai, la chronophagie est telle que, comme pour une série télévisée, quand vous n'en pouvez plus, vous arrêtez. Et donc, je crois pas qu'elle ait eu, justement, la force de traction, non pas d'attraction, mais la force de traction pour emmener son lecteur jusqu'aux 800 dernières pages.
Jean-Louis,
je suis très étonné d'être
la dernière fois
plusieurs
qu'on vous met
fois
côte à côte.
Vie,
hein. Ils sont tous
de
pas
la vie
d'accord.
De mon
ça n'a pas toujours
Arnaud,
été comme ça.
Pas toujours été comme ça.
Est-ce que tu l'as emporté sur un bateau, par exemple?
Non, parce que je prends pas des risques de naufrage aussi inconsidérément.
Oh là là, qu'est-ce que
t'embarques ça
dur,
à bord?
Mais qu'est-ce qu'ils sont durs?
C'est la lecture idéale pour les temps que nous vivons. Je veux dire, bon, c'est le roman Netflix. Pour deux raisons. D'abord, on n'en voit pas le bout. Hein, c'est comme le voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est une épidémie en soi, ce livre. Cette espèce de contamination verbale des page après page, comme ça, c'est ce que j'appelle l'écriture glissando, tu sais, c'est un terme qu'on connaît en musique, où tu fais plusieurs notes, tu plaques des accords continuellement, on sait jamais quelle note exactement tu joues. Je dis écriture glissando, l'écriture des claviers, tu vois, ça va très très vite.
Mais tu n'as pas été touché par le sujet?
Alors si, j'ai été touché par le sujet. D'ailleurs, je suis quand même admiratif du travail et de l'obstination qu'il a dû demander à la personne.
Elle a mis 5 ans à l'écrire.
Ah, ça m'a fait penser à l'admiration qu'exprime le docteur Knock au pharmacien Mousquet, quand il visite sa pharmacie et qu'il dit « Oh là là, quelle excellente installation et quelle... !» Et j'admire cet ordre méticuleux dans lequel tout est bien rangé. Et puis surtout, il ajoute « Et j'adore le modernisme du moindre détail. » Et ça, ça m'a frappé. Là, on est dans un monde qui est notre monde, mais vous ne chercheriez en vain dans cet ouvrage la moindre pensée désuète, le moindre archaïsme. Je veux te dire, Jérôme, c'est décourageant d'intelligence. Parce que effectivement, la curiole, non seulement elle range tout ça dans des bocaux, hein, comme dans une pharmacie, t'as le bocal... Oh. T'as
le bocal, bah si, qu'il
t'as
était
le bocal
comme ça.
De Dubaï. Dubaï, c'est un bocal en soi, déjà. T'as le bocal McDo, t'as le bocal Amazon, etc. Le bocal
tout n'a pas changé, Jean-Louis.
Et tout est livré oh. avec le mode d'emploi, la posologie. Et elle délivre surtout une pensée politique permanente. Elle nous dit à quoi,
on a compris,
comment nous devons interpréter toutes ces scènes. Compris. Et alors, on appelle tout à l'heure, tu t'étonnais de trouver Lévinas.
Chez Éric Fotorino.
Et là, je te signale que l'on trouve Merleau-Ponty à la page.
Et Alain Badiou.
Diderot.
Qu'est-ce qu'on pense au Figaro Magazine des lois de l'ascension?
T'as un tout petit livre entre les mains, c'est quoi ça?
Oui.
C'est un autre livre.
C'est un autre livre publié par Céline Curiol.
La posture du pécheur.
Qui sort.
C'est les sept péchés capitaux,
oui,
c'est ça?
Il y a une collection aux éditions du Cerf où il y a les sept péchés capitaux vus par sept écrivains. Et Céline Curiol, étonnamment, elle a fait la paresse. Oui, elle a choisi la paresse.
Alors là, il va dire
ça s'appelle La posture du pêcheur, et c'est l'histoire de Lise qui est au chômage et fière de l'être et qui cite Bartleby. Je préférerais ne pas.
Ouais.
Eh bien, c'est avec tout mon respect pour Céline Curiol que j'ai préféré lire La posture du pêcheur.
Tu veux dire que tu n'as pas lu du tout
que Les lois de l'ascension. Mais non, je n'aime pas l'alpinisme. Donc moi, les lois de l'ascension, c'était pas pour moi. Et donc j'ai fait un choix. Je conseille le livre de Céline Curiol qui fait 125 pages et qui coûte 12 €. La posture du pêcheur.
Est-ce qu'elle parle de la paresse du critique? Qui ne veut pas,
En tout cas, je l'exprime
escalader.
Ici.
Bon, d'accord. Patricia?
Moi, je suis un peu découragée.
Moi, je suis épuisée. Toi, tu es découragée.
Ben oui, parce que je trouve que... Alors, tu parles de sa force de traction, Arnaud. Je trouve que quand même, il faut être assez gonflé pour se lancer dans une entreprise pareille.
Oui, il faut être gonflé, ça, c'est bien, mais... Se lancer dans l'entreprise, c'est réussir l'entreprise.
Non, mais c'est un peu un pari aussi sur le lecteur, dont on sait qu'il peut commencer à la librairie. Je veux dire que tu vois un livre de plus de 800 pages, t'as pas forcément envie de l'acheter. Moi, je trouve qu'elle raconte des histoires, elle les raconte bien, c'est plutôt bien construit. Effectivement, il y a 4 saisons, mais les saisons, tu peux aussi te dire qu'il n'y en a pas pour tout le monde, il n'y en a pas 4, parce que, par exemple, pour Modé, qui est sénégalais, ben, il y a la saison sèche et la saison pluvieuse, il n'y a que 2 saisons, donc déjà, tu peux résumer à ça. Ouais. Et puis, ce livre, effectivement, c'est comme une révolution, mais au sens... Bon, il y a la révolution, il y a celle du printemps arabe, mais il y a aussi celle d'un astre. Tu peux aussi voir la construction comme ça, comme la lune qui met, je ne sais plus, 27 jours sur un rythme plus ou moins... Non, mais tu as l'air absolument... Qu'est-ce qu'il y a?
C'est un ferry boat, mais aussi, tu vois, c'est un on pourrait se mettre à plusieurs pour sans jamais se croiser.
Le passage sur Dubaï, moi, je l'ai trouvé extraordinaire. Les passages où quand les personnages sont dans un taxi, c'est la même chose pour le périphérique parisien. C'est absolument sublime, cette vision d'une ville la nuit. Le réfugié tunisien, qu'évidemment plus personne ne voit et auquel elle fait attention en rentrant chez elle. Elle rentre de son journal, de sa boîte, et elle voit les pompiers qui viennent, elle redescend et elle lui fait coucou. Moi, j'ai trouvé c'était des scènes romanesques. Il y a un déjeuner avec son papa dans une brasserie, son papa qui a fait la guerre d'Algérie, qui est aussi très émouvant. Il y a les migrants encore à la porte de la chapelle. Le local de l'association de migrants, moi, je le trouve vachement bien raconté. Il y a vraiment une immersion et une empathie pour un monde.
Les lois de l'ascension de Céline Curiol chez Actes Sud. Bravo Patricia d'avoir lu intégralement et attentivement ce roman. Et on termine avec La vie en relief. C'est au seuil. Le nouveau livre de Philippe Delerme, l'auteur, vous le savez, bien sûr, de La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, qui propose ici un nouveau recueil d'instantanés littéraires, comme il les appelle. Il faut, dit-il, savoir, et là je le cite, être riche à chaque époque de notre existence, de tous les moments qu'on a vécu, qu'on vit, qu'on vivra encore. C'est cela, la vie en relief, voir ses souvenirs. et ces sensations non pas additionnées les uns aux autres, mais comme démultipliées à l'infini, vives comme si c'était la première fois. Par exemple, le coup de sifflet d'un match de foot qui renvoie à tous les matchs auxquels on a assisté, la lecture d'un livre à un enfant et le sentiment d'être protégé par qui on protège, ou ce mur du gymnase où l'ado était forcé de suivre des cours de gym, et le mur de l'EHPAD où on veille les derniers jours d'un proche. Frédéric.
Je pense que Philippe Delerme a eu beaucoup de succès avec un genre qu'il a inventé, qui est le plaisir minuscule, le texte court, l'instantané littéraire, comme tu viens de le dire. Et que comme il a eu beaucoup de succès avec la première gorgée de bière, il a des impôts à payer. Et donc, il faut que régulièrement, il fasse à peu près le même livre.
Je m'en vais.
Donc, il y a eu l'extase du selfie, il y a eu les eaux troubles du mojito. Il y en a un qui s'appelait « Je vais passer pour un vieux con ». Oui. Je me suis identifié. Mais là, non, j'ai pas trouvé le relief du titre dans le livre. Ça me semble très démago, en fait, cette espèce de goût pour le microscopique, les petits plaisirs du quotidien. J'ai un peu l'impression d'écouter Radio Nostalgie, mais en livre. Quoi, c'est-à-dire que c'est... Bon, voilà, oui, c'est vrai que peut-être il est coincé par cette histoire d'impôt et qu'il est obligé...
Tu sais que la première gorgée continue à avoir un succès fou. C'est-à-dire, ça ne s'est jamais démenti. Hein. Oui. Donc, je pense pas qu'il ait des problèmes vraiment d'impôt.
Après, ça dépend des souvenirs. Certains de ces souvenirs, comme l'odeur du gymnase qui, effectivement, pue la chaussette et la poussière, je me suis souvenu de l'école Bossuet. En revanche,
j'étais à l'école Bossuet, toi.
J'étais à l'école Bossuet, tout à fait. Et puis là, j'ai pas compris. En revanche, la transparence du verre de prune, parce que il me semble que la prune n'a rien de transparent du tout.
Ça dépend. Tu as une prune qui peut être translucide. Oui. Dans le Lot, tu as une prune translucide.
cette émission m'échappe.
Tiens, ça ressemble à du gel hydroalcoolique, en fait. Un bon verre de prune. D'ailleurs, ça peut remplacer.
Mais...
Bon.
Non, en fait, bon, voilà.
Vous avez raté votre soirée, quoi, en gros.
Là, je suis désolé, c'est vrai qu'on a...
C'est parce qu'ils sont grognons.
Arnaud.
Je me souviens de... Quand il y a eu ça fait très longtemps que j'avais pas lu Philippe Delerme. Je me souviens de ce pastiche qui s'appelait La première gorgée de sperme. Et en fait, à chaque fois que je pense, je lis Philippe Delerme, c'est ça qui me revient en tête. Il y a pas beaucoup de sexe. Hein. C'est bizarre dans les instantanés d'une vie qui est absolument aucune scène.
Et pourquoi il faut du sexe pour que tu aimes un livre?
Non, mais ça fait partie de la vie aussi, quoi. Je dirais.
Bah, c'est marrant parce que
là, c'est quand même très. Il est devenu. Moi, je, comme ça fait très longtemps, je l'avais pas lu. Je vois quand même que c'est toute sa famille. Hein. Il y a les pages sur la mère, les pages sur le père, les pages sur le frère défunt, des pages sur son fils, les pages sur ses petits-fils. Le passage que j'ai préféré. Mais alors, évidemment, j'étais désolé qu'ils disent que ça soit pas un bon film. C'est sur Le Mans 66, qui est un film que j'adore personnellement. Bon, dont le Masque à la Plume d'ailleurs avait dit le plus grand bien,
y compris
les femmes critiques qui étaient là. Mais bon, c'est un film que j'adore et l'histoire est assez belle puisque j'ai appris que Philippe Delerme était présent en 1966 durant les 24 heures du Mans avec son frère justement. Il y a un mot qui convient parfaitement, je crois, à Philippe Delerme, c'est joli. Et en même temps, des fois, je suis désolé, c'est pas si bien écrit que ça. C'est-à-dire que quand on fait dans la miniature, comment dire, on demande l'excellence. Mais quand même, des fois, je vais vous citer une phrase, si je la retrouve. Voilà, il dit « Un de mes passages préférés, virgule, dans la recherche, virgule, c'est celui où le narrateur, etc. » Bah, écoutez, moi je suis désolé, mais un de mes passages préférés dans la recherche, sans virgule, est celui où le narrateur. Il sort d'où ? Il sort du supermarché. C'est la grande tendance du moment, là, ils mettent des C partout, y compris Philippe Delerme, qui se veut un styliste. Bah non, je suis désolé.
Oui, c'est un peu un style parlé. Moi je trouve que c'est un livre assez réussi, qui avait tout pour se casser la gueule, parce qu'effectivement on avait lu la première... Mais arrêtez, alors on dit du mal.
C'est bien... Les rôles sont bien définis
non,
cette fois-ci.
Non, mais alors, bon, moi, je peux vous dire, c'est dégueulasse, ne lisez pas ça, jetez-le à la poubelle, ne l'achetez pas, etc. J'ai pas envie de vous dire ça, moi, j'ai passé un bon moment, parce que c'est un homme qui a plus vécu qu'il ne vivra, et qui donc, là, pour le coup, je parle pas de sperme, mais je parle de bière, va boire le verre jusqu'à la lie. Et ça peut être comparé à l'amour, parce que tu as une espèce de jouissance qui prend son temps. Et je pense qu'il faut avoir vécu et avoir déjà un peu vieilli pour vivre de la sorte. Il prend son temps, il regarde, il contemple. Et il y a tout ça qu'il y avait, au fond, pas vraiment dans la première gorgée de bière, qui était le livre d'un homme beaucoup plus jeune. Et en ce sens, moi, je trouve qu'il y a des observations extrêmement poétiques, même quelquefois. Quand il voit un enfant qui s'endort comme ça sur l'épaule de sa mère au milieu d'une soirée bruyante, c'est beau, quoi, tout à coup. C'est là, c'est vivant, c'est... Ouais, c'est sensuel. Enfin, moi, ça m'emporte.
Jean-Louis.
Oui, y a ce côté, bon, il y a d'une part ce côté prince de la miette et de la bribe, le côté Marcel Proust du post-it, on pourrait dire.
Mais il en parle d'ailleurs.
C'est un peu ça, hein, qu'on retrouve là, compilé. Et je pense à ce que disait Frédéric tout à l'heure sur, on se demande ce que c'est que cette idée de relief dans le titre. Moi, je pense qu'il s'agit d'une faute d'orthographe. Relief aurait dû être au pluriel. La vie en relief, les reliefs de la vie, les petites choses. Parce que le relief ne nous est pas donné par la mémoire, donné par le temps, mais le temps nous échappe. Donc, mais cela dit, là, ce qui m'a frappé le plus dans ce
au secours, Jérôme, tu veux une aspirine ?
Voilà, dans cet opus-là, c'est ce qu'a dit Arnaud tout à l'heure, c'est-à-dire sa famille. C'est vrai qu'il y a des choses très étonnantes qu'on n'avait jamais lues, comme ce témoignage sur le Mans en 66. Et puis aussi son ironie sur lui-même. Mmh. Moi, j'étais très sensible à ça. Je trouve que l'ironie, ça amène de la modestie et ça manque beaucoup, je trouve, dans le paysage contemporain, dans la littérature contemporaine. Combien aurait été capable d'écrire un livre intitulé « Je vais passer pour un vieux con ». Et lui, et je veux dire, même là, par exemple, il y a un très beau portrait de Léoto. Et en fait, Léoto, c'est l'anti de l'herbe. Et
d'ailleurs, auquel il avait consacré un roman, dans mon souvenir.
Oui, tout à fait. Hein? Donc, c'est un homme capable de cette humilité-là. Je ne sais pas haïr comme... Et puis, il lui arrive d'avoir des bonheurs d'expression qui valent les grands moralistes français, comme par exemple celui-là que j'ai noté. Le malheur, c'est de perdre quelqu'un. Le bonheur, c'est d'avoir quelqu'un à perdre. Ça, je veux dire, c'est Vauvenargue, c'est La Rochefoucauld, c'est Champfort.
C'est La vie en relief, c'est au seuil, c'est le nouveau livre de Philippe Delerme. Je n'ai jamais été plus heureux que de passer au moment des conseils, parce que qui dit conseil dit vraiment des envies de lire, des envies de conseiller des livres qu'on a aimés. Et on va commencer avec Patricia.
Zita, c'est le titre du livre d'Olivier Hercend, H-E-R-C-E-N-D. C'est chez Albin Michel et c'est un premier roman qui a un charme fou, qui se passe dans l'Italie des années 20. Et Zita, c'est le nom d'une servante qui est employée dans une famille de notaires. Un des messieurs, Léone, est fou de course automobile et Zita va se mettre à la course automobile. Et je dois dire que c'est assez extraordinaire parce que c'est sur fond d'Italie, on est dans le nord de l'Italie, en Lombardie. Mais la lecture va bien au-delà de l'histoire. Je trouve que c'est entre... Il y a des résonances entre l'époque et la compétition, c'est assez déconcertant. Et puis comment est-ce qu'on devient, au fond, un symbole national ? Enfin, c'est extrêmement bien vu, chapeau. Je ne connais pas du tout cet auteur, et pour cause, il n'a pas écrit. Donc ça, c'est une chose, puis je voudrais faire amende honorable, parce que la dernière fois, pour L'Empire de la Poussière, de Francesca...
Tu as oublié de citer la traductrice.
La traductrice, qui est Lise... Kaya.
Je rappelle que chaque fois que j'annonce un livre étranger, je crois indispensable d'annoncer également la traductrice ou le traducteur. Le conseil de Frédéric.
Alors moi, je suis absolument navré de ne pas avoir aimé les 5 livres au programme, d'autant que je trouve qu'il y a beaucoup de bons livres en ce moment. Après, c'est une question de chance, et je trouve qu'aujourd'hui, c'était comme ça. Mais
Il y a eu un masque récent où vous aviez tout aimé.
Presque. Oui, bien sûr, voilà. Donc, je précise ça, parce que ça peut paraître peut-être choquant.
C'est toujours mauvais signe.
Moi, tout ce que j'aime, c'est être émerveillé et aimer les livres. Et là, ça se bouscule au portillon. Il y a un roman de Patrice Jean chez Gallimard qui s'appelle La poursuite de l'idéal. Je trouve que c'est époustouflant. Dans le genre gros roman, peut-être réactionnaire, mais dans le bon sens du terme.
Je propose qu'on en parle dans un des prochains masques.
C'est un auteur en plus, je trouve, qui devient de plus en plus important et qui avait écrit d'autres romans auparavant. Et là, il s'impose, quoi, je crois. Et puis, il vient d'arriver, là, chez Grasset, le nouveau... Johann Zarka, Chems, CHEMS, sur le chemsex. Alors le chemsex, c'est passionnant.
Tu l'expliques à Jean-Louis, parce que je suis sûr qu'il ne sait pas ce que c'est que le chemsex. Bah,
il présente ça comme finalement le nouveau fléau. C'est un fléau, notamment chez les homos. C'est pire que le sida, parce que ça fait beaucoup de dégâts, de malades et tout. C'est de faire l'amour avec des nouvelles drogues qui sont le 3MMC, le GHB, le MDMA, mélangeant tout ça.
La sortie de la prune.
Et le Viagra aussi, tout mélangé, et ils font l'amour pendant 72 heures.
Et des poppers.
Viagra poppers, tu meurs tout de suite. Oui. Mais il y a donc c'est un livre qui apprend beaucoup de choses, mais qui est écrit surtout, c'est ça qui est important, dans une langue avec une vitesse, avec l'argot de Zarka, qui a eu le prix de Flore pour Panam Underground, et qui est vraiment un des auteurs céliniens vivants, quoi.
Enfin, c'est chez Grasset.
Chez Grasset, Chems, de Johann Zarka.
Mon conseil est aussi chez Grasset, et à propos de langue, c'est assez exceptionnel, c'est un tout petit livre qui s'appelle La Brûlure, livre très bref, très incandescent, de Christophe Bataille, qui est le portrait d'un élagueur qui a failli mourir en étant attaqué au sommet d'un arbre par des centaines, je dis bien des centaines, de frelons asiatiques. Texte donc sur toutes les brûlures, celle-là étant terrible, mais aussi les brûlures du réchauffement climatique, des forêts, de l'amour, de la foi. Et je trouve qu'il y a quelque chose de claudélien, dans le bon sens du terme, dans la prose de Christophe Bataille. Encore une fois, j'ai rarement été à ce point brûlé par un tout petit livre où la langue est exceptionnelle, et c'est Christophe Bataille chez Grasset. Le conseil de Jean-Louis.
Y a un nouveau Sureau qui paraît, François Sureau, Ma vie avec Apollinaire.
Dont tu parles dans ta chronique ce mois-ci.
Oui, voilà. Et qui est le premier volume, la publication a été retardée. C'est le premier volume d'une nouvelle collection. Il ne s'agit pas vraiment de biographie, mais de raconter pour un écrivain complice, un écrivain avec lequel il a vécu en amitié. Et François Sureau, ça a été Apollinaire qu'il a commencé à lire collégien à Saint-Louis de Gonzague chez les jésuites. Il gravait sur sa table de travail tous les poèmes d'Apollinaire. Et cette passion ne l'a jamais quitté. C'est un très très beau livre. Ma vie avec Apollinaire, donc.
Et on peut rappeler L'Or du Temps, qui est ce très gros livre, en revanche, qui est apparu l'été dernier, et qui est une sorte de traversée, de navigation dans toutes les lectures et les auteurs qu'il a aimés. Et enfin, Arnaud.
Écoutez, je suis très heureux parce que un de mes écrivains préférés, sinon mon écrivain préféré contemporain français, vient de sortir un nouveau livre, et n'en doutez pas, mon écrivain préféré est une écrivaine, s'appelle Nathalie Quintane, et elle sort un hamster à l'école. Elle est prof de français depuis 35 ans, Nathalie Quintane, et elle écrit des courts textes, là aussi un peu, on pourrait dire comme Philippe Delerme, mais sauf que ça n'a rien à voir dans la langue, des courts textes sur son expérience de l'école, à la fois lorsqu'elle était écolière, mais surtout depuis qu'elle est prof, encore une fois, à 35 ans, des textes sur l'estrade, l'autorité, la trousse, Parcoursup, et c'est brillantissime, parce que Nathalie Quintane, elle vient de la poésie, il y a aussi une langue, c'est pas du tout un traité sur l'école, c'est aussi quelque chose qui se lit avec énormément de plaisir, parce qu'elle a une sorte d'oralité dans sa langue, encore une fois, qui vient de la poésie, et qui fait de ce hamster à l'école vraiment un grand livre, que tout le monde devrait lire pour essayer de comprendre où on en est aujourd'hui avec l'éducation nationale et le sentiment diffus qu'on peut en avoir.
Tous ces conseils ultra positifs, vous les trouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Patricia Martin, Frédéric Becbédé, Arnaud Vivian et Jean-Louis Hézine du Chasse-Marée pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam, et ce soir au théâtre de l'Alliance française à la technique, il y avait, et je les remercie, Marie Le Peintre ainsi qu'Éric Carrère pour une réalisation signée Xavier Pestugia. Notez bien que dans une semaine, on remettra le 31e prix des auditeurs du Masque et la Plume qui récompense, vous le savez, le meilleur film français et le meilleur film étranger de l'année 2020. À dimanche prochain sur France Inter, évidemment.